Et on poursuit notre journée à l'espace événement Georges Frêche concernant le premier salon du numérique 48 Digital qui se tient actuellement, organisé par Lozère Développement. La dernière conférence débat de la journée sur notre antenne qui va concerner le numérique et les territoires et qui se terminera à 16h30 avec un dernier plateau radio ici en direct donc de l'espace événement avec Pauline Morin de Lozère Nouvelle Vie et des candidats ici qui sont candidats à l'installation Lozère et qui sont en train de participer en ce moment à des job dating. Donc on pourra leur poser des questions sur ce qui se passe, mais tout de suite la conférence.
Et la manière dont ces opérateurs rendent accessible cette offre sur le territoire notamment. Et enfin, donc des témoignages plus territoriaux, donc de Michel Redon sur la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, Sophie Théris Laetis, et enfin Anne-Claire Dubreuil qui nous fait le plaisir d'être là en visioconférence depuis Toulouse. Donc là, il va s'agir de voilà, comment est-ce qu'on se saisit des usages du numérique pour enclencher des dynamiques territoriales, des dynamiques d'inclusion, d'accessibilité des services, des dynamiques économiques et d'attractivité également. Voilà, qu'on verra un petit peu toutes les opportunités qui existent en la matière. Je vais laisser donc la parole à Sébastien Massa de la Caisse commune de sécurité sociale.
Donc bonjour à tous. Je vais me rapprocher un tout petit peu de vous parce qu'on n'est pas nombreux et parce que j'en suis en train de faire des UV là sur la scène. Donc je me rapproche de vous. Alors je vais vous parler de l'enjeu de la transition numérique pour les organismes de sécurité sociale. Alors je ne parlerai des organismes que je représente, c'est-à-dire donc la Caisse primaire d'assurance maladie, la CAF et bien sûr l'URSSAF. Merci. Donc vous expliquer un petit peu donc les enjeux pour nous. Alors je me prends la manette. Alors l'enjeu principal, bien évidemment, c'est un gain de temps à partager, puisque effectivement aujourd'hui on est sur une demande des publics en termes d'immédiateté. Je pense que tout le monde apprécie de faire à tout moment chez soi des demandes de téléservice. Rappelez-vous qu'avant, on posait des jours de congé quand on avait des demandes d'administration. On posait les congés la veille, le lendemain, on se rendait à l'administration quand on avait une voiture pour y aller. Et donc, on était bien obligé de se véhiculer. L'absence de papier et bien sûr, tout ça toujours sécurisé. Alors, pour ne pas se mentir dès le début du discours, vous expliquez effectivement que c'est un enjeu majeur en termes de fonds publics. Alors, on ne sera pas les seuls, les organismes de sécurité sociale. Je pense que nos collègues des impôts, enfin l'ensemble des démarches, on va dire, liées aux collectivités, seront toujours avec un souci majeur aussi, effectivement, de mieux gérer nos fonds publics. Un accès aux droits, sans déplacement, 24 heures sur 24. Une absence de recherche de mobilité, pas de voiture, pas besoin de solliciter votre entourage, pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Puisqu'en Lozère, effectivement, on n'a pas forcément d'offres de transport adaptées pour être en tout point, en tout lieu. Donc bien souvent, c'est un peu la solidarité qui joue. Et c'est un moyen aussi, à distance, d'éviter ce genre de sollicitations. Bien sûr, une continuité d'accès aux soins en secteur sous-dense. Alors là, je pense bien sûr à nos secteurs où la densité médicale est parfois très inférieure. Puisqu'en Lozère, la seule densité qui est supérieure, c'est celle des infirmiers. En dehors des infirmiers, toutes les autres professions sont plutôt sous-denses. Alors je m'adresse principalement bien sûr à la population médecin puisque c'est vers les médecins qu'on va en premier et l'absence de médecins dans certains territoires peut laisser craindre voilà, d'avoir des offres autres comme la télémédecine. Alors télémédecine c'est un bien grand mot qui englobe télé-expertise, télé-dentisterie. On arrive à faire beaucoup de choses maintenant depuis soit un cabinet, soit même un lieu, une maison de santé pluriprofessionnelle. Voilà, ça répond à beaucoup d'obligations et notamment pour nos services en EHPAD, puisque les EHPAD, bien souvent, la nuit, des personnes âgées qui peuvent avoir des situations de stress, une absence, un malaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont déplacés par le SAMU, ils sont déplacés vers les urgences. Donc ça fait à minuit jusqu'à 3h du matin sur un brancard. Si on peut l'éviter, je pense que c'est assez salutaire. N'hésitez pas si vous avez des questions au fil de l'eau. Quelques évolutions digitales en cours et à venir. Alors en matière de santé, bien évidemment, la e-carte vitale, ça sera donc, si Christophe, notre collègue, est expert un petit peu en la matière, mais ça sera dorénavant de remplacer votre carte vitale par une application smartphone. Donc pas besoin de la perdre, pas besoin de l'avoir tout le temps sur soi. On a plus souvent son portable que sa carte vitale, puisque nos collègues qui créent des DMP aujourd'hui, effectivement, vous sollicitent pour avoir votre carte vitale. Ça sera vraiment un enjeu de modernisation demain. Bien évidemment, les services à médic et cette offre de jour en jour. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé de, enfin vous avez la possibilité, c'est pas un lapsus, mais presque, de mettre à jour vos situations, soit un changement de RIB, un changement de domicile. Tout ça, vous le faites depuis chez vous sans vous déplacer. Vous pouvez le faire à minuit si vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment facilitant. Ça évite le risque d'erreur qu'on pourrait avoir, ça évite une perte de document, ça évite voilà, une mauvaise saisie, un document illisible. Sur la partie bien sûr DMP, donc le stand vous a été proposé tout à l'heure, hein, c'est le dossier numérique partagé, donc c'est-à-dire votre carnet de santé numérique. Donc c'est un enjeu majeur hein, en termes d'innovation et de santé et de sécurité. Branche famille, alors là, il y a une offre de service qui est pléthorique. C'est vraiment très très bien fait et très dense, avec des simulateurs en ligne pour la grande majorité des prestations. L'information de la date des paiements. Vraiment, c'est un site très riche en termes de droits et de simulateurs, ce qui est vraiment très pratique quand vous avez besoin de savoir si vous avez droit à une aide ou pas. Sachant qu'ils embarquent, je ne l'ai pas noté, mais je le fais de mémoire, il embarque une aide qui est mesdroits.gouv ou un truc, je crois que c'est ça, mesdroits.gouv, où en 7 minutes, vous avez accès, en tout cas, en termes de simulation, à 36 aides. Donc 36 aides en 7 minutes, je pense que le rapport est intéressant. En matière de recouvrement, une application qui est déjà amorcée hein, au niveau de l'auto-entrepreneur. Donc on peut faire depuis son smartphone l'ensemble des déclarations de chiffre d'affaires, le paiement des cotisations, la gestion des moyens de paiement. L'historique et bien sûr avoir des attestations de droits de paiement pour l'ensemble des cotisations sociales. Donc les trois réseaux sont vraiment dans une démarche proactive en termes de fourniture d'accès aux téléservices. Alors une meilleure accessibilité aux services pour tous les usagers. Pour la majeure partie, le 100% numérique est vraiment perçu comme une évidence. 94% des populations assurées, donc maladies, considère l'offre numérique comme un réel avantage. Pour autant, l'enjeu, c'est d'éviter justement une rupture pour ceux qui ne seront pas dans le numérique et de savoir comment les accompagner dans le travers d'une inclusion numérique. Donc on aurait pour souhait, donc, dès l'été, de créer au sein du guichet unique une médiation numérique, c'est-à-dire en fait sonder un petit peu les assurés qui se déplaceraient au guichet de manière à avoir un peu leur autonomie numérique et voir les besoins d'accompagnement éventuels, de manière à constituer des petits groupes dès la rentrée de septembre et pouvoir les accompagner. Alors bien sûr en groupe, de 5, 6, 7, 8 personnes, de manière à développer une autonomie sur des sujets, sur leurs propres droits. Bien évidemment, le gain de temps qui est induit par ces téléservices, il est réinvesti autrement, il est réinvesti à votre service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va développer de plus en plus de parcours attentionnés, par ce gain de temps justement, hein, on peut investir davantage sur les dossiers complexes et permettre donc de gérer même des dossiers de manière attentionnée en bibranche, c'est-à-dire par exemple la gestion d'une naissance, ça a des impacts en droit santé, ça a des impacts en famille et l'intérêt pour vous, pour nous, c'est de pouvoir vous donner un parcours coordonné, de venir une seule fois au guichet pour avoir l'ensemble des aides et l'ensemble des informations. Des coopérations, bien évidemment, aussi inter-régime, qui ont déjà démarré avec la CARSAT, hein, avec des ciblages, entre guillemets, le terme n'est pas joli, mais vous le comprenez, de manière à parfois remettre dans le parcours de soins ou le parcours de droit des personnes qui n'ont pas vu un médecin traitant depuis 2 ans, 3 ans et qui sont âgées. Voilà, c'est pas tout à fait normal. Donc c'est peut-être de se rapprocher vers ces gens-là pour voir si tout va bien ou si un accompagnement doit être fait. Plus moderne et un tout petit peu plus loin dans le temps, mais pas trop non plus, la possibilité de vous accompagner en direct via un outil de partage d'écran et pour vous aider à prendre la main sur les téléservices. Donc vous le voyez certainement dans d'autres sites peut-être plus commerciaux, donc les organismes de sécurité s'y mettent aussi. On essaie voilà, de vous aider à travers, c'est pas vraiment un chat, mais vous voyez l'idée, c'est une assistance en fait en ligne. Dès que vous vous connectez, voilà, au bout d'un moment, si vous commencez à pas trop savoir comment naviguer, un outil pourrait apparaître pour vous permettre justement de dialoguer et d'accéder au service. Les acteurs de l'accompagnement, bien évidemment le guichet, mais l'ensemble des partenaires, et je remercie à ce titre bien évidemment les MSAP qui sont en première ligne. Un même objectif pour tout le monde, une même posture, c'est accompagner au téléservice. C'est le slogan, c'est plutôt faire avec au lieu de faire à la place. Alors l'image elle est un peu forte, mais vous allez la comprendre rapidement. On a beaucoup de droits qui sont soumis à des déclarations et à des contrôles de situation qui sont trimestriels. Je trouve plus valorisant d'aider quelqu'un à faire une déclaration une fois, sachant qu'elle va la renouveler tous les trimestres, plutôt que d'obliger cette personne-là à revenir au guichet tous les trimestres pour la faire. Alors, si la possibilité n'y est pas, l'offre sera toujours bien tenue au guichet. Mais je trouve de donner une autonomie à quelqu'un qui va prendre son propre dossier en main, c'est vraiment apprécié. Pour avoir accompagné des personnes à l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Quand je pensais bien sûr à ces aides, je pensais à l'AAH, la prime personnalisée, le RSA et bien sûr les invalidités qui sont contrôlées trimestriellement en termes de déclaration de ressources. Alors tout ça, ça évolue dans la posture de nos assurés, de nos allocataires, de nos cotisants, mais ça évolue aussi dans nos postures à nous, puisqu'aujourd'hui, on doit développer l'autonomie de chacun. Donc, on le disait tout à l'heure, saisir son propre RIB, ne pas perdre des documents, éviter des erreurs de lisibilité. C'est sous la déclaration des déclarants. C'est moins de complications pour le déclarant, c'est moins de complications pour nous. Tout le monde est gagnant, en fait, dans ce donnant-donnant. Ça permet de consacrer plus de temps aux dossiers complexes, bien sûr, et réduire les traitements. Ça permet également d'offrir davantage de services et de parcours plus attentionnés et plus coordonnés sur des moments de vie fragilisants. Quand j'entends fragilisant, je veux dire par là un parcours d'accompagnement lié à un décès, la perte d'un proche, le parcours d'une première invalidité. C'est pas neutre dans une vie d'être invalide. La première fois, on est un peu perdu, on aimerait être accompagné. Je réfléchis à votre, mais voilà, il y a plein de parcours, des moments voilà, où on est. Ça pourrait être le divorce, ça pourrait être les enfants, sur la branche famille, ça peut être la création d'entreprise ou la modification d'entreprise du côté URSSAF. Il y a des éléments voilà, sur lesquels on aimerait être accompagné. Avant, on avait moins de temps. Maintenant, avec cette coproduction, on offre davantage de temps et on pense de plus en plus vraiment, à favoriser ces moments-là d'échange et d'accompagnement. J'en avais terminé avec une offre assez rapide. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Merci, Sébastien, pour cet exposé des services de la Caisse commune et avec un fonds d'accessibilité. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ? Non. Alors moi j'en ai. Rassieds-toi, je t'en prie. Tu as évoqué à la rentrée des ateliers donc d'inclusion numérique en fait finalement qui seraient faits sur la base d'observation au guichet de la Caisse commune de sécurité sociale. Est-ce que à la CCSS vous avez envisagé de mutualiser avec d'autres opérateurs, pourquoi pas Pôle emploi, pourquoi pas la CARSAT, qui ont forcément des publics croisés avec vous et qui pourraient peut-être générer aussi, enfin, donner des ressources qui généreraient une dynamique un petit peu plus importante sur les formations?
Alors, l'idée est très intéressante. Après, je pense que ce ne sera pas une question de volonté, peut-être, mais de démarrage des dans un premier temps entre nous. Ça va poser la question quand même après de trouver des lieux communs, des animations communes. Ça risque de complexifier. Ça aura l'avantage de ce que tu dis, effectivement, en tout cas, d'avoir plus de monde présent à des salons à des mêmes moments, puisqu'effectivement, les problèmes qu'on peut rencontrer pour les téléservices maladie, santé ou famille seront les mêmes, peut-être aussi pour le Pôle emploi. Mais voilà, c'est sûr qu'en termes d'offres, on aurait plus facilement une dizaine de personnes par atelier en mutualisant ces demandes-là. Reste effectivement à l'imaginer, en tout cas.
D'accord, merci. J'ai une deuxième petite question, puisqu'on y est. Donc là, on a vu la digitalisation pardon, des services, la dématérialisation, comme on l'appelle. Mais dans vos process internes à la Caisse commune de sécurité sociale, ça a bien évidemment des impacts aussi sur les métiers, sur la manière dont vous faites désormais votre travail. Est-ce que le fait d'être articulé au sein même d'un organisme, donc que ce soit la branche santé, recouvrement et famille, c'est un avantage qui permet par exemple de croiser des fichiers ou pareil de générer des dynamiques un petit peu différentes que dans les autres départements?
Alors toujours sous des réserves de respect de la CNIL, hein, qui nous observe dès qu'on parle de croisement de fichiers. Bien évidemment, étant un organisme avec une entité juridique unique regroupant les trois branches, on est autorisé à davantage de croisements de fichiers qu'on peut utiliser non pas à des buts de prospect, mais à des buts bien évidemment de démarches proactives en termes d'accompagnement. Mais toujours quand même une vigilance par rapport à la CNIL qui n'autorise pas tout. Et voilà, c'est un petit peu l'écueil en fait dans nos pratiques et dans le ciblage qu'on aimerait avoir un peu plus approfondi parfois.
Ok, merci Sébastien.
Et un peu global, donc qui concerne votre organisme, effectivement, on va vers le tout numérique et je dirais toute personne va déclarer ces informations, je dirais, incidents, d'événements, etc., etc. Est-ce que dans votre organisation, mais c'est valable dans toutes les autres structures, on veut parler du trésor public, on peut parler, etc., est-ce qu'il existe dans la stratégie à venir la possibilité d'avoir un contact téléphonique de support et qui réponde vraiment à la question posée au problème de la personne qui est au bout de la ligne et qui ne sait pas comment faire. Alors c'est une question un peu générale, hein, elle n'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour tous ces aspects d'évolution vers le tout numérique où on est seul devant une machine et où derrière un serveur vocal qui se trouve, on ne sait pas où, et des hotlines qui ne répondent plus aux questions. C'est une question un peu globale, mais je n'attends pas de réponse, mais il faudrait que dans la stratégie de ces instances nationales, hein, on puisse dire ben, on a un contact téléphonique qui répond. Au niveau département, par exemple, hein, puisqu'on veut supprimer le département, il faut le dire comme ça, un appel département, je peux m'adresser à vous, on répond, et je dirais qu'on a la réponse correcte. Voilà.
Alors, je ne pourrais pas vous répondre pour tout le monde, mais je pourrais vous répondre en tout cas pour la caisse commune. En réponse à votre question, nous avons maintenu et nous maintiendrons bien sûr des plateformes téléphoniques à destination de divers publics. Qu'elles soient spécialisées pour les employeurs, qu'elles soient spécialisées pour les professionnels de santé ou pour les assurés, nous avons à la fois des plateformes de téléphoniques et des contacts bien sûr possibles par des mails. En plus du guichet unique, bien évidemment, hein, qui, je le rappelle, aujourd'hui est ouvert en Lozère pour toute personne qui le franchit, à la différence peut-être d'autres départements ou d'autres régions où les accueils sont que sur rendez-vous. Le tout public n'existe plus ailleurs, ou quasiment plus. Nous l'avons maintenu en Lozère et je dirais même augmenté grâce à la collaboration avec la MSAP.
Merci. Je proposerai aux autres opérateurs de répondre à la même question du fameux contact téléphonique. Et je vais céder du coup la parole à Florence Masnavette de Pôle emploi.
Alors, bonjour à tous, je suis Florence Masnavette, la nouvelle directrice, enfin je commence à être plus très nouvelle puisque je suis là, ça va faire un an, du Pôle emploi de Mende, du seul Pôle emploi sur le département de la Lozère. Je vais vous parler de Pôle emploi et de ses services numériques, donc si tu veux bien voilà, passer sur la deuxième grille. J'ai parlé d'écosystème puisque comme vous le constatez, Pôle emploi c'est pas un site, c'est des multiples sites, c'est des multiples accès et des multiples services. Notre plus célèbre service est donc évidemment Pôle emploi.fr. Pour vous donner une idée, Pôle emploi.fr c'est 51 millions de connexions par mois. Voilà, donc ce sont des systèmes énormes, très gros, très lourds, donc parfois certainement pour ceux d'entre vous qui êtes inscrits, quand j'essaie de m'actualiser à la période du mois, eh ben ça plante, ce qui est un peu évident puisque quelle que soit la taille des serveurs qu'on met en place, si tout le monde se connecte en même temps, le réseau saute et évidemment les serveurs saturent. Voilà, donc ça explique l'insatisfaction qu'on peut avoir parfois, qui est due vraiment au volume énorme que sont nos systèmes. En moins souriant aussi, on fait l'objet de beaucoup de convoitises. Donc Pôle emploi se défend contre les cyberattaques. On a 1 million d'attaques par mois. Voilà. Donc il faut aussi de votre côté, en tant qu'utilisateur, être vigilant aussi bien entreprise que demandeur d'emploi sur toutes les tentatives de phishing. Une offre qui est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle est trop belle pour être vraie. Voilà. Une offre qui vous demande vos identifiants, Pôle emploi ne vous demandera jamais vos identifiants vu que nous les avons. Voilà. Donc tout ce genre de choses, c'est vrai aussi pour nous en tant que conseiller, on est aussi victime de campagnes de phishing. Donc j'attire votre vigilance là-dessus parce que régulièrement on fait constat et on est navré, mais malheureusement, on n'a pas la main pour filtrer tout ça, même si on y travaille beaucoup. Donc je commence par cette petite alerte, parce que ça me paraissait le bon moment d'en parler. Pôle emploi, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas une seule mission qui est de répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. On en a deux, qui est donc le service aux demandeurs et aux entreprises, et la production de données statistiques. Alors, à chacune de ces missions, on a évidemment des services en ligne qui répondent à cette demande, avec à chaque fois des enjeux différents et ou des principes de fonctionnement différents. Donc au niveau des demandeurs, c'est celles qui sont le plus célèbres, hein, qui vont être le plus connu, Pôle emploi.fr, celui dont je vous parlais tout à l'heure, aux 51 millions de connexions par mois. Mais on a aussi, puisqu'évidemment, maintenant, on sait que 96% de nos demandeurs d'emploi sont équipés d'un ordinateur ou d'un smartphone ou d'une tablette, ça induit qu'il faut que nos outils soient aussi utilisables et mobilisables depuis un portable. D'ailleurs, de plus en plus, on s'aperçoit que l'essentiel des actions, des actes métiers classiques de recherche d'emploi, que sont l'actualisation, etc., se font via un smartphone et via les applis qui permettent de le gérer. Pôle emploi est allé très très loin dans ce service-là, puisqu'il fait même, il ouvre même la possibilité aux demandeurs d'emploi d'envoyer lui-même les informations qu'il estime nécessaires et de les scanner ou de les photographier et de les envoyer depuis ses espaces personnels pour pouvoir dialoguer avec nous et de pouvoir voir aussi le devenir du traitement de ces pièces qui arrivent chez nous. Donc voilà, on a fait un effort aussi pour que ce soit lisible. Je dirais, et je balayerai devant ma porte, on a encore certainement des progrès à faire en termes d'intuitivité. Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est pas toujours, pas toujours évident. Moi, la première, quand je dois faire scanner des documents à des personnes, parfois je rame un petit peu. Voilà. Mais en tout état de cause, l'objectif est vraiment de rendre la relation la plus fluide et l'échange de données entre vous et nous, puisqu'il y a forcément de l'échange de données à avoir, la plus simple possible. Après, en dehors de cette question de la gestion quotidienne et évidemment du positionnement sur les offres d'emploi, puisque l'essentiel est quand même d'aller chercher des offres d'emploi sur nos sites, vous avez aussi, alors juste un petit détail sur les offres d'emploi qui sont diffusées sur pôle-emploi.fr. Ce sont celles de Pôle emploi, mais ce sont aussi celles de l'essentiel des structures dites concurrentes, Monster Job, quel job, etc., etc., qui sont toutes agrégées avec Pôle emploi. Donc si vous regardez une liste d'offres d'emploi, parfois vous avez le logo d'une de ces structures. C'est concrètement, il y a eu un système de rapprochement qui a vu que nous n'avions pas cette offre-là et on la mettait à disposition. On sert, si vous voulez, aussi de panneaux d'affichage pour les structures dites concurrentes, puisque l'objectif est surtout qu'on apporte un maximum de transparence sur le marché du travail. Évidemment, si on est sur une stratégie de recherche d'emploi, on a aussi ce dispositif, cette plateforme de services en ligne autour de la question de l'emploi, qui est l'Emploi Store, avec des 4 thématiques qui sont la création d'entreprise, je veux prendre contact avec une entreprise, je me définis un métier ou je cherche une formation. Donc on a 4 thématiques et avec à chaque fois des profondeurs de services qui vont de la simple information avec des informations données jusqu'à des MOOC, c'est-à-dire des cours en ligne pour travailler sa création d'entreprise, pour comment j'approche une entreprise, etc., etc. Donc vraiment des cours en ligne prodigués éventuellement par des universités d'ailleurs. Et puis ça peut être aussi des choses plus ludiques, ludiques bien que ce soit des serious games, c'est-à-dire des mises en situation où vous allez tester quelque chose et réagir à un profil métier. Ça peut être un quiz métier aussi je vais aborder ce métier-là et je voudrais me reconvertir. Est-ce que j'ai une bonne vision déjà de ce qu'est ce métier et de ses engagements? Voilà, donc vous avez tout ça et vous avez aussi dans cet outil Emploi Store la possibilité de d'aller proposer des idées aussi bien pour les conseillers qui ont des idées pour améliorer nos services en ligne, puisqu'on est en création constante d'outils nouveaux. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'outil maintenant qui permet à une entreprise de dire j'ai pas besoin d'un profil incroyable, je veux juste un serveur demain parce qu'il vient de me planter. Bon, ou j'ai besoin d'un professeur parce que mon professeur vient de se casser la jambe au ski. Voilà. Et en gros, simplement, il dit j'ai besoin d'un professeur à tel endroit et à compter de telle date. Bon, cet applicatif a été mis en place par un conseiller Pôle emploi qu'il a inventé et qui a été hébergé en tant qu'intrapreneur dans notre service et on a regardé si ça allait avoir un intérêt. Donc on fait comme ça un certain nombre on héberge aussi bien des collègues qui veulent aller dans la création que des entreprises extérieures qui disent moi j'ai une idée, je pense qu'elle pourrait servir à m'améliorer les services numériques de Pôle emploi. On va l'accompagner dans cette démarche-là. Donc si vous voulez plus de détails, vous n'hésiterez pas à aller voir mes collègues qui ont un stand et qui vous montreront quelques-uns des applicatifs qui ont été créés comme ça et pour lesquels, bien évidemment, on met à la fois notre service et on y viendra en dessous tout à l'heure, aussi de l'open data, c'est-à-dire la capacité à faire de la recherche sur des volumes importants. Alors, purement statistique, on y viendra un peu plus tard, mais en tout état de cause, de repérer, de faire des cohortes, est-ce que ça marche, est-ce que ça avantage ces personnes ou pas, et est-ce qu'elles y trouvent un intérêt. Donc voilà sur l'Emploi Store, et puis des outils aussi qui sont très libres sur le marché du travail, que j'ai mis entre les deux, parce que ça peut aussi bien servir à une entreprise qui veut s'installer sur un territoire qu'elle est en train d'explorer. Est-ce que je m'installe, dans le Cantal ou plutôt dans le Puy-de-Dôme? Aller regarder déjà quels sont les métiers en tension, quel est le salaire moyen qui est versé, ça peut être un élément d'aide à la décision en s'en disant, si je m'installe là, je vais avoir les effectifs dont j'ai besoin, là, je ne les aurai pas. pas. Là, si je les veux, il va falloir que je donne un peu plus en termes de salaire, etc. Donc ça aide aussi les entreprises. Et puis la même chose est vraie pour les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont en mutation professionnelle. Je suis mon conjoint, je vais m'installer en Alsace, dans mon métier, qui recrute ou avec quel niveau de salaire, etc. etc. Et ces données-là sont des données publiques sur la base des offres d'emploi qui sont saisies sur chaque territoire. Voilà. Et puis de la même manière, donc le service aux entreprises qui s'accompagne aussi, donc qui permet aux entreprises de déposer directement les offres. Alors là aussi, 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Souvent d'ailleurs le lundi matin quand on arrive, on a une palanquée d'offres internet à traiter, puisqu'évidemment il y a derrière un service après-vente à la fois d'explication des services et de comment ça va se décliner. Et aussi pour sécuriser ce que je vous disais tout à l'heure en termes de campagne de phishing, de bien s'assurer que l'entreprise qui nous a déposé, elle existe vraiment. Et c'est bien elle qui a eu l'intention de recruter, non pas quelqu'un qui aurait pu usurper son identité. Donc voilà le travail que nous faisons avec les entreprises. Et évidemment, les entreprises ont aussi leurs applicatifs numériques qui sont à leur disposition. Je reviens avant de passer sur la partie que les gens connaissent moins, qui est la partie de production de données statistiques, sur la logique d'inclusion numérique. On est très conscient que c'est un enjeu, que les outils qu'on apporte, plus on offre des services, plus c'est compliqué de s'y retrouver. C'est une évidence, puisque plus c'est foisonnant, plus il faut cheminer à travers et repérer ce qui nous va bien. Donc on a un vrai travail d'inclusion numérique sur lequel on investit beaucoup. À la fois, donc je souligne là le réseau des MSAP qui pour nous sont plus qu'un service, c'est un partenaire. Et c'est vraiment l'accessibilité de nos services passera là notamment par un bon relais, une bonne alliance de travail avec ces réseaux-là, parce que c'est effectivement un bon moyen pour une personne qui découvre ou qui ne sait pas faire d'aller juste à côté, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît les services, qui peut être éventuellement en relation avec le pôle emploi pour débloquer, dérouiller une situation, etc. Alors je rebondis sur ce que vous disiez sur le service téléphonique. Alors il y a une hotline sur les parties techniques, vraiment sur mon système ne marche pas, le profil plante, il y a un numéro de téléphone qui apparaît sur pôle-emploi.fr où on peut appeler en disant voilà, j'ai manifestement un problème informatique lié à la compatibilité de nos systèmes, etc. Sur lequel donc ils peuvent être aidés. Ça c'est sur la partie purement numérique. Et nous maintenons un accueil téléphonique d'entreprise sur lequel on vient même de renforcer encore, puisque maintenant l'accueil téléphonique sur les questions indemnisation est relocalisé dans chaque agence. Donc si vous appelez, alors évidemment il y a effectivement une plateforme d'orientation numérique, un serveur numérique qui oriente les appels, mais vous êtes allé au bout de la démarche, au bout vous avez effectivement un conseiller indemnisation et une chance sur cinq de tomber sur celui qui a traité effectivement votre dossier, et de toute façon il pourra tout à fait solliciter son collègue si c'est une situation complexe pour laquelle il n'a pas pu dérouler ou débrouiller le fil. Voilà, donc sur le service téléphonique, nous gardons et nous garderons. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien en prévisible de suppression de cet accueil téléphonique. Donc je finissais sur la logique d'inclusion numérique. Ça passe aussi chez nous par le recrutement au niveau de Pôle emploi de 3200 services civiques qui sont au quotidien dans les agences et qui sont vraiment là pour débrouiller, accompagner à la fois sur du ponctuel, écoutez, je ne sais pas plus comment on fait pour numériser un document, que ben, j'ai besoin d'une prise en main, est-ce qu'on pourrait me prendre en charge ? Et à ce moment-là, on prend des rendez-vous et on met en place des petits ateliers où vous êtes en face à face avec le service civique qui va vous aider vraiment à vous approprier ces outils. Voilà. Et toujours dans la logique d'inclusion numérique, on mobilise aussi les MSAP pour favoriser les visioconférences, pour permettre effectivement de faire du face-à-face avec des conseillers et du partage d'écran. Dans l'idéal, ça c'est à venir, parce que tous les MSAP sont encore pas équipés comme ça, où on peut à la fois faire un partage d'écran pour regarder ensemble une offre, par exemple, et avoir en visuel le conseiller avec qui on échange. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui habite Vallée française, c'est peut-être plus facile d'aller à Méruès que de monter à Mende. Voilà. J'en finirai donc sur ces services-là d'inclusion numérique. C'est un gros enjeu pour nous. Donc on a formé aussi les conseillers et on est... on met en place aussi des actions. C'est-à-dire que dès l'inscription maintenant, on travaille et on insiste beaucoup sur les services que vous pouvez trouver en ligne à Pôle emploi. Parce que comme je vous le dis, l'offre est foisonnante, il y a énormément de choses. Même les conseillers eux-mêmes ne maîtrisent pas la totalité de l'offre de services numériques parce que sur l'Emploi Store, par exemple, c'est 361 outils à votre disposition. Qui vont, je vous dis, de la simulation d'entretien jusqu'à un cours plus théorique sur comment on s'aborde une entreprise, quelles sont les logiques de gestion prévisionnelle des emplois compétences. Enfin, voilà, vous avez vraiment une filière depuis la chose la plus pratico-pratique, jusqu'à des choses plus, encore une fois, académiques, mais qui peuvent permettre complètement de travailler des tests de personnalité. Par exemple, puisqu'on héberge un certain nombre d'outils de Monkey Tile, où vous allez pouvoir faire des tests en disant, tiens, bah, dans mon orientation, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter ou me réorienter, je vais déjà commencer par ça. Qu'est-ce qui est important pour moi comme enjeu de travail? Voilà. Donc, voilà les services qui sont à disposition des demandeurs d'emploi. Et je vous disais, donc, on a une autre compétence qui est la production de données statistiques. Alors, ça a l'air d'être un détail, mais la production de données statistiques, ça a trois enjeux. Améliorer nos services, ça c'est une évidence. Les adapter, c'est-à-dire repérer, par exemple, en termes statistiques, que d'un seul coup, un territoire a besoin d'une agence en plus ou d'un point relais, ou ça va être aussi d'améliorer, parce que s'apercevoir que sur un territoire, on a peut-être besoin d'un réseau de MSAP plus dense, etc., etc. Donc ça, c'est le premier enjeu les deux premiers enjeux en interne pour nous. Mais c'est aussi, ça permet d'éclairer les politiques publiques. Parce qu'évidemment, si on a 25 entreprises qui nous ont déposé des offres d'emploi sur un métier et qu'on n'a pas pu répondre à leurs demandes, ça indique qu'il va falloir faire des efforts peut-être en termes de formation, de repérage, peut-être développer des filières au niveau de l'éducation nationale. Enfin voilà, ça va générer un certain nombre d'informations et de données. Donc c'est important pour nous qu'on les ait et ça fait partie de notre travail quotidien. Voilà. Ces données-là, vous les trouvez assez librement sur pôle-emploi.org, puisque ce sont des données statistiques. Vous pouvez avoir une vision de qui sont les demandeurs, pourquoi, combien de temps, etc. Et ces données qui sont ouvertes, puisque ce sont de simples données statistiques, mais qui peuvent aussi éclairer l'intérêt d'un élu, d'une entreprise ou d'un simple demandeur d'emploi ou d'un étudiant, par exemple, qui ferait des recherches. Et de manière locale, nous avons un très très bel outil qui est le pendant, si vous voulez, de pôle-emploi.org, qui est l'Observatoire régional de l'emploi, que moi j'ai découvert puisque j'arrive d'une autre région, et qui est très très bien fait, qui là aussi peut servir aux mêmes fins d'éclairer cet outil. Donc voilà, c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais évoquer avec vous sur cette logique de notre bouquet de services. On travaille évidemment aussi à être visible sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu veux passer le dernier. Donc on est sur ces sites-là. Et puis évidemment, le Pôle emploi demande a aussi une page Facebook où vous avez de l'information. Depuis, on a une fermeture exceptionnelle à telle date, jusqu'à telle entreprise recrute sur 30 postes. Voilà. Et tout ce qu'il y a entre les actions de formation, les participations au forum, etc. Et on se fait le relais des manifestations auxquelles on assiste ou auxquelles on contribue. Voilà. Donc c'est aussi une manière de rester imbriqué et actif sur sa recherche d'emploi que d'avoir ces accès-là, où on vous mâche un petit peu le travail. Juste pour à titre d'éclairage et pour lever quelques idées préconçues, et j'en terminerai là, le travail de Pôle emploi en termes d'inclusion numérique, il produit ses fruits. C'est-à-dire que 95% des demandeurs d'emploi, des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, vont sur Internet. À la différence, si on compare avec le reste de la population, qui n'est que 88%. Donc l'effet d'être demandeur d'emploi induit une culture numérique. Et je vous disais tout à l'heure, 96% des demandeurs d'emploi sont équipés d'un outil et donnant accès à Internet. Donc c'est bien la preuve que cette logique de la recherche d'emploi, et 9 demandeurs d'emploi sur 10 vont sur Internet pour faire leur démarche. Toutes, pas que les nôtres, parce que l'objectif est bien d'initier une dynamique, d'initier des habitudes de travail pour que les personnes soient vraiment en prise directe avec ce qui se fait. On ne va pas nécessairement avoir le recrutement de telle entreprise, mais on se doit de mettre le lien avec le site de l'entreprise si on sait que, n'importe quoi, le Club Med recrute. Voilà. Donc cette culture-là, l'investissement que Pôle emploi fait sur les réseaux sociaux, entre autres, et l'Internet en général, il est vraiment de l'ordre de, il faut acculturer les utilisateurs pour que ça devienne un réflexe. Ah, et bien si j'allais ce matin voir un petit peu ce qui se joue sur les réseaux sociaux que j'utilise et aussi les infos qu'il y a sur Pôle emploi événements, etc., etc., pour être en phase avec une réalité économique et être le plus réactif possible.
Merci beaucoup pour cette présentation très claire de votre offre de service qui est très riche. Est-ce que le public aurait une question ? Pas de question. Monsieur ? Oui.
Je ne voulais pas la poser, mais je posais la question. En termes de prospective, avec des, si je ne me trompe, Google est en train de lancer des activités de support recherche-emploi. Comment vous voyez ces structures qui sont, je dirais, multinationales et qui s'adressent plutôt à des bassins d'emploi type Europe, alors que Pôle emploi est plutôt, je pense, français?
Alors, on a tout un pan de Pôle emploi international hein, où on accompagne chaque région et référent d'un certain nombre de structures et de pays vers lesquels on va accompagner les migrations. Donc nous, par exemple, on travaille avec le Canada, entre autres. Voilà, donc Pôle emploi est aussi présent sur le champ du recrutement international. Alors, pour répondre plus naturellement, je suis à Pôle emploi depuis maintenant 15 ans, enfin, ex-ANPE, puis Pôle emploi depuis 15 ans. Et à chaque fois que quelqu'un est rentré sur le marché, a commencé à œuvrer dans le domaine de l'emploi, on nous a dit « Oh là là, mais vous ne pensez pas que ça va vous faire concurrence, etc. etc. » Je pense par exemple à l'intérim, quand on leur a ouvert la possibilité de signer des CDI. J'ai envie de dire que l'emploi, c'est une cause nationale. Donc plus on est nombreux à œuvrer dessus, plus on mettra les gens rapidement au travail et mieux tout le monde se portera. Donc on n'a pas de concurrence. On a des partenaires et on travaille avec eux et on essaie d'aller le plus vite ensemble. Voilà. Et d'où d'ailleurs, je vous dis, la transparence sur nos services où on héberge aussi bien les offres de structures en s'assurant simplement qu'elles répondent à la légalité et à la charte de Pôle emploi, à savoir des offres réelles, non discriminantes et qu'ils ne soient pas déjà saisis chez nous. Voilà.
Merci, j'allais poser la même question en plus. C'est parfait. Je vais donc céder maintenant la parole à Nicolas Perron pour la préfecture de la Lozère.
Donc Nicolas Perron, je suis directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Lozère et je suis chargé de vous présenter l'offre de dématérialisation que le ministère de l'Intérieur a mis en place sur tout le territoire de la Lozère. Alors, cette dématérialisation, c'est d'abord une réforme interne au ministère de l'Intérieur, qui est assez lourde, qui exige un dispositif de modernisation des titres et de sécurisation, notamment pour les cartes d'identité et pour les passeports, mais également pour les permis de conduire et les cartes grises. Donc c'est une nouvelle organisation des préfectures en matière de titres, avec une mise en place de plateformes de traitement expertes, qu'on a donc dénommées les CERT, alors l'acronyme c'est les centres d'expertise et de ressources titres. Donc la réforme du plan Préfecture Nouvelle Génération consiste à la fois à repenser les missions et à mobiliser les nouvelles technologies pour inscrire les préfectures dans l'avenir des territoires. Elle passe donc par la création des CERT pour la fabrication l'instruction et la fabrication des demandes de carte d'identité, de passeport, de carte grise et de permis. Pour info, c'est 17 plateformes consacrées aux cartes d'identité et aux passeports, c'est 18 plateformes consacrées aux permis et c'est 5 centres de ressources consacrés aux véhicules. Alors, c'est pas le tout de créer des plateformes, il faut les alimenter et on les alimente via des téléprocédures. Alors, également en accès H24, hein. Mais on ne peut pas tout faire tout seul, et notamment les procédures sécurisées pour les cartes d'identité et les passeports exigent la présence, et notamment pour la prise d'empreintes. Donc on est obligé de développer des points de contact. Alors pour accompagner cette réforme, on a mis en place des points numériques. Alors il y en a deux à la préfecture, il y en a un à la sous-préfecture, mais pas que. On s'appuie aussi sur le réseau déjà existant des mairies qui disposent d'un dispositif de recueil des empreintes. Il y en a 9 en Lozère. On s'appuie aussi sur un réseau d'intermédiaires de mairies volontaires qui peuvent aider les usagers à préparer leurs demandes en ligne. Et donc, ce sont des points de proximité pour les usagers avant de se positionner sur les mairies qui doivent relever leurs empreintes pour produire les titres. Et on s'appuie bien sûr sur le réseau des MSAP, qui est un opérateur qui a développé une expertise dans les services et qui aide justement à les usagers pour les demandes en ligne, etc. Alors, les points numériques sont installés en préfecture, en sous-préfecture. Ils sont animés par un médiateur, donc ça a créé en quelque sorte un emploi, qui est chargé d'assister tous les usagers. Donc, c'est comme disait mon collègue, on ne fait pas la place, on accompagne. Et on offre une assistance. Alors, pour le territoire français, donc en France, actuellement, il y a 2319 mairies équipées, ce qui représente 3527 dispositifs de recueil. Donc ça, c'est pour prendre les empreintes. Un dispositif de recueil donc peut traiter ces 3750 demandes par an. Alors, calculé sur la base de 250 jours par an, 5 heures par jour, 20 minutes par demande. Ça va. Donc les 9 communes équipées de dispositifs de recueil en Lozère sont Mende, Florac, Marvejols, Langogne, Saint-Chély, Villefort, Méruès, Collet-d'Odez et La Canourgue. Donc on a démultiplié en quelque sorte les accès pour les usagers et on a rapproché ces accès de l'usager. Alors on s'appuie aussi évidemment sur le réseau des MSAP. Et les points numériques doivent obéir à un cahier des charges parce que pour l'utilisation d'applications sécurisées, il faut que les informations passent dans le système. Et du coup, ça exige un certain niveau de qualification. Alors, ça c'est un peu la carte des 13 MSAP. Du territoire. Donc, je n'ai pas mis les mairies équipées d'EDR, mais ça vient compléter le maillage, et les mairies de volontaires qui, en général, sont situées dans des bassins de vie au plus proche des usagers, des utilisateurs. Les MSAP font partie d'un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. C'est l'axe 3 qui accompagne le développement des usagers numériques pour garantir une égalité d'accès aux services, accompagner les usagers pour l'accès aux e-services, la médiation numérique, et permettre à toute la population de réaliser ses démarches sur les plateformes numériques. Alors, quelques petits chiffres. Donc, on réalise des enquêtes donc à la demande du ministère auprès des mairies qui ont des dispositifs de recueil. Alors, l'enquête donne comme moyenne pour obtenir un rendez-vous 2,24 jours, c'est très peu. Et 90% des mairies en Lozère donnent un rendez-vous en moins de 15 jours. La moyenne, c'est donc 2,24 jours. Il reste 10%. Entre 15 et 30 jours. Donc là, c'est une surveillance qui nous fait réagir aussi au niveau local. On essaye de maintenir un niveau d'accès rapide pour ces démarches en téléprocédure. Alors au début de la mise en place, c'était fin 2017, tous les départements de France étaient plus ou moins en vert avec des bons scores. arrivé à juin 2019, c'est un peu moins le cas, mais rassurez-vous, en Lozère, on maintient le cap, donc c'est très bien pour les usagers. Un bon point pour les usagers. Alors, il y avait un dernier point sur le dispositif France Service qui intéresse les MSAP. Là, je fais un point qui est issu du grand débat et des déclarations du 23 avril dernier. Donc, il n'y a pas pour l'instant de documents figés. On attend une circulaire qui donne les détails exacts du dispositif. Mais bon, l'objectif de ce dispositif France Service, c'est de faire monter en gamme les maisons de services existantes par une labellisation si elles respectent une charte d'engagement. Ouais. Alors, concernant les évolutions qui impliqueraient ce nouveau label, les opérateurs et les partenaires et les financeurs de la politique publique seront présents dans ces structures au moyen de contacts privilégiés comme en back-office, en permanence, en rendez-vous en visio, selon des conventions nationales. Donc, on attend plus de qualité dans le service rendu, une meilleure formation des agents. Je ne doute pas que les agents sont déjà très bien formés en Lozère. Et de l'aide à l'investissement pour l'amélioration de certaines structures. Un maillage aussi plus complet. Donc, en Lozère, on s'appuie sur les collectivités en général. Mais Lozère Développement est donc un partenaire privilégié de l'animation de ce réseau et pourrait devenir tête de réseau pilote sous l'autorité de la préfecture. Une visibilité accrue auprès des usagers, une communication nationale renforcée, voilà. Alors, la charte, les chartes ne sont pas amenées à évoluer en l'état, hein, il faudra juste renforcer au fil des mois, en fonction des besoins, l'actualité du dispositif. En Lozère, l'offre de service est relativement large, au-delà des opérateurs nationaux, et il y a aussi les opérateurs locaux. Pour les structures existantes, il s'agit pour l'État de les accompagner pour qu'ils justement montent en niveau de service. Alors, dans les déclarations, il prévoit l'ouverture de 500 nouveaux points de service. Partagé entre collectivités, associations et aussi la Poste. Et puis un accompagnement financier qui pour l'instant n'est pas figé, mais qui pourrait, en fonction des besoins, s'élever à 30 000 euros. Voilà. Donc pour l'instant, c'est les dernières informations que j'ai. On attend les informations officielles. Mais bon, l'objectif de créer un label France, un dispositif France Service, est bien de monter en qualité et donc d'assurer auprès des usagers de la proximité et de la qualité de service. Voilà. Opérateurs, partenaires, financeurs de la des politiques publiques. Mais c'est pour l'instant, pardon. Mais présent selon plusieurs moyens, pas forcément physiquement. Voilà. Ça peut être aussi en visio, en téléprocédure. Donc c'est un nouveau type de dématérialisation et de gestion des procédures.
Vous avez précisé au moyen de ressources dédiées, des ressources du coup uniquement pour les animateurs médiateurs de maisons de services au public probablement. Donc a priori pas forcément de présence physique.
Non.
Des administrations.
Voilà. Non, pas forcément. Plus. Ok.
Il y a certains endroits où vous avez des MSAP qui font doublon avec des permanences d'autres structures. Du coup, ces structures-là n'investissent pas. Alors, je prends par exemple, ça peut être la CPAM par exemple, qui ne va pas être présent sur ce secteur-là, enfin sur cette MSAP-là, parce que, ou ça peut être aussi Pôle emploi, parce que par exemple il y a un point relais à côté ou une permanence dans un CCAS par exemple. De ce que j'avais compris moi et qui me semblait très intéressant aussi, c'est que d'un seul coup, tous les partenaires institutionnels de ces MSAP, qui sont mes collègues et moi-même et un certain nombre d'autres structures non présentes aujourd'hui, type MSA, etc., type CARSAT, seront obligatoirement toutes là pour que le client, l'usager qui arrive, il ait toujours la même offre de service. S'il va à la MSAP d'à côté parce que ce jour-là, il vient au marché, il puisse trouver les mêmes services quelles qu'elles soient et où qu'elles soient en France. Voilà. Et c'était cet engagement-là parce qu'effectivement, le service à la carte correspondait bien à des besoins des centrales, mais pas nécessairement à celles des usagers. Se rapprocher des usagers sur cette question-là me semble vital et bienvenu.
Y a-t-il des questions supplémentaires ? Merci, Monsieur Perron, pour votre intervention. On va changer maintenant un petit peu de type d'intervenant, puisqu'on va passer plutôt sur les territoires. Et donc, je vais demander à Michel Redon, vice-président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, de bien vouloir présenter les dynamiques liées au numérique sur son propre territoire.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc vice-président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, en charge du déploiement des MSAP, de leur gestion aussi, et plus largement du déploiement des outils numériques. Comme vous le savez, notre département, comme d'autres départements ruraux ou hyper ruraux, est un département bien protégé, bien préservé. Bien préservé, mais aussi avec une mobilité que je qualifierais de difficile. En effet, les kilomètres se transforment très rapidement en longues périodes de déplacement. Kilomètres qui deviennent de plus en plus nombreux pour rejoindre les structures publiques, vu le recul de nos services publics sur notre territoire. Pour remédier à cette déprise, plusieurs outils sont déployés ou en phase de l'être pour être mis à la disposition de nos concitoyens par les collectivités locales, avec tout de même l'aide de l'État, du département, de la région et même parfois de l'Europe. Donc je vous parle effectivement du numérique au service de l'accès aux droits et du développement du territoire. Je vais rapidement faire un survol non exhaustif sur ces outils numériques en commençant par les MSAP. Donc leurs missions sont décrites sur la diapositive affichée sous vos yeux. Vous le voyez, les animateurs ou animatrices de ces MSAP doivent faire preuve d'un large panel de compétences, dont en premier chef l'écoute pour orienter et informer de manière pertinente les usagers. C'est un travail qui demande des remises à jour constantes dans le cadre de réunions mensuelles assurées entre autres par Pôle avec l'ensemble des animateurs et animatrices du territoire lozérien. À ce jour, sur la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, il existe deux MSAP. Une qui se trouve au pont de Montvert, qui est au pied du Mont-Lozère, et qui se déploie surtout sur les communes du pont de Montvert, de Ventalon-Cévennes et de Vialas. Une seconde qui se trouve, madame la directrice, dans la vallée française, et qui se déploie sur deux sites, Saint-Étienne-la-Vallée-Française et Sainte-Croix-Vallée-Française, avec, je l'espère, d'ici quelques jours, l'ouverture pour quelques heures d'une antenne à Saint-Germain-de-Calberte. Je vais vous parler maintenant un petit peu, mais très rapidement, de l'activité qu'il y a sur ces sites. Vous pouvez voir sur ces schémas que c'est une activité qui est assez saisonnière, qui est tout de même constante dans un nombre important de personnes et qui augmente au fil des années qui passent. C'est grâce au travail qui est effectué par les animatrices, en l'occurrence sur la communauté de la commune des Cévennes à Mont-Lozère, ce sont des animatrices qui effectuent un travail rigoureux et constant auprès des usagers qu'elles rencontrent très régulièrement. Alors, tout à l'heure, vous parliez, monsieur le directeur, de la professionnalisation ou en tous les cas d'une montée en gamme de ces personnels. Je peux vous dire que déjà aujourd'hui, elles font un travail remarquable et heureusement qu'elles sont sur ces sites pour pouvoir aider les usagers qui parfois sont perdus et en manque de repères, surtout avec ces outils informatiques qui ne sont pas à la portée de tout le monde aujourd'hui. Mais les choses s'améliorent. Tout à fait, mais Paul pourra vous le confirmer aussi. Bien. Donc, pour permettre un accès aux droits pour tous, qui est le pilier de la justice sociale, ces MSAP sont des lieux qui tendent à permettre aux habitants de nos communes d'accéder aux droits pour tous. Accès qui est un des piliers de la justice sociale. Nous voyons bien que le dispositif de dématérialisation des démarches administratives met un certain nombre de nos concitoyens en grande difficulté. Soit parce qu'ils ne sont pas équipés en matériel informatique, de plus en plus rare tout de même, soit qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment cet outil, soit que les portails mis à disposition par les services de l'État ou des autres structures peuvent apparaître parfois difficiles d'accès. Nous avons eu cette année un exemple parfait de l'évolution de ces démarches dématérialisées et obligatoires. Je veux parler de la déclaration de revenus qui ne peut se faire, à quelques exceptions près, que par l'intermédiaire d'un poste informatique. Les services fiscaux sont demandeurs d'un engagement fort des MSAP. Soit. Les modalités de mise en œuvre de ces collaborations restent à préciser et à travailler pour préserver la confidentialité des données et aussi la sécurité de nos animateurs et animatrices. Mais ce n'est qu'un exemple et de nombreux partenaires ont conventionné avec la MSAP, je ne vais pas les citer, pour un travail commun tel que la MSA, pour l'emploi, CCSS, EDF, les chambres consulaires et bien entendu l'État. Mais il y a beaucoup plus. Je crois qu'une quarantaine, Paul, on doit être au double, non?
On est un peu plus de 20 conventionnés.
Oui.
Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres partenaires qui ne sont pas conventionnés pour lesquels on accompagne sur l'offre de services.
Donc le déploiement sur nos territoires. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons jusqu'à présent 2 MSAP et 3 sites, parce qu'il y a une des MSAP qui travaille qui est déployée sur 2 sites. Et nous espérons pouvoir installer une nouvelle MSAP avec 2 sites, le Collet de Dèze et Vialès. Mais nous avons aussi la volonté de développer d'autres outils informatiques tels que les tiers-lieux. Au-delà du déploiement de ces MSAP, donc, nous travaillons aussi à la création de tiers-lieux. Le gouvernement vient de lancer un programme spécifique à ces tiers-lieux, monsieur le directeur. Ces nouveaux lieux d'activité et de services se développent partout en France depuis plusieurs années, tant à l'initiative d'acteurs privés que de collectivités territoriales. Les tiers-lieux expriment le désir partagé d'acteurs de se regrouper, de créer, d'inventer, de travailler ensemble. Le gouvernement a annoncé le lancement d'un programme spécifique aux tiers-lieux, nouveaux lieux, nouveaux liens. Il reconnaît par ce biais l'importance de ce nouveau modèle qui transforme les territoires, donne accès à de nouvelles activités et à de nouveaux services pour les habitants partout sur le territoire en soutenant ceux qui créent, inventent et portent ces nouvelles activités. Décision qui correspond à notre vision sur ce sujet. Dispositifs qui permettent à des professionnels, des salariés, des artisans, des professions libérales, mais aussi des artistes et beaucoup d'autres personnes, d'avoir sur un site prévu à cet effet les outils informatiques leur permettant de travailler, faire du coworking, du télétravail, ou d'avoir des échanges avec d'autres professionnels sur un lieu dédié au travail, hors de leur entreprise, mais aussi hors de leur domicile. Dispositif de plus en plus demandé dans nos territoires ruraux. J'ai l'exemple d'une secrétaire qui travaille pour un cabinet d'experts comptables sur Langogne et qui reste une paire de jours sur la MSAP de Villefort et fait du télétravail très régulièrement et qui m'a expliqué que le télétravail pour elle devait se faire hors de l'habitation et hors du cadre privé. Ce que je partage totalement aujourd'hui. Nous avons aussi eu la volonté de déployer un dispositif de visioconférence sur notre communauté locale. Alors pour l'instant, nous n'avons pas eu un grand succès parce que nous n'avons pas trop l'habitude de travailler de cette manière-là. Je vous laisse imaginer une réunion avec une dizaine de personnes, avec la volubilité qui nous marque, parce que la visioconférence à 2 ou à 3 ça se passe pas trop mal, mais au-delà, c'est un peu plus compliqué. Il y avait aussi la difficulté que nous avions avec des débits qui, jusqu'à présent, étaient limités par la DSL et qui va, je l'espère, très rapidement être supplanté par la fibre et qui va nous permettre de pouvoir assurer ces démarches et ces échanges avec une qualité très amélioré et avec une efficacité qui sera redoutable pour le travail que nous allons porter dans les années à venir. Donc, tout ce travail, tout ce déploiement de nouveaux outils, toutes ces démarches sont là pour un point bien précis et une volonté bien précise de la part des collectivités locales, c'est l'accueil et le maintien des populations. Ces nouveaux moyens de travailler, ces nouveaux moyens de communiquer, grâce à la fibre optique qui arrive aussi, vont être un levier primordial pour permettre le développement économique sur notre département. Va être aussi un outil important pour éviter que nous fassions trop de kilomètres et pour que nous consommions un peu moins de CO2. Le déploiement de ces nouvelles technologies sous toutes leurs formes, doit être pris comme un nouvel atout qui va nous permettre d'améliorer notre activité grâce à la fibre, au numérique, à la télémédecine et au coworking. Nous avons un déficit important de professionnels de la médecine sur notre territoire et j'espère qu'avec ces nouveaux outils, on va pouvoir quand même répondre aux demandes de nos administrés et qu'ils auront un suivi médical comme tant d'autres peuvent l'avoir dans des milieux qui ne sont pas des milieux ruraux. Je vous remercie.
Merci Michel pour ton témoignage donc, qui nous sort un petit peu sur la fin de l'accès au droit sur lequel on était beaucoup depuis le début de cette table ronde. Est-ce que vous avez une question pour Michel Arédon? Moi j'en ai une. Donc on a vu, je vais revenir juste un tout petit peu sur une carte de la communauté de communes, peut-être, voilà, un territoire donc concentré sur les Cévennes qui est extrêmement compliqué avec une mobilité très, très complexe pour se déplacer. Donc vous avez pris le parti de faire des antennes de ces maisons de services au public pour renforcer l'accès aux droits. Est-ce que tu ne penses pas qu'une solution nomade, une solution mobile peut représenter aussi quelque chose d'intéressant pour ceux de tes administrés qui sont les plus éloignés, même des antennes ou des maisons de services au public qui existent déjà?
C'est effectivement un outil qui pourrait être mis en place au niveau du département et qui pourrait sillonner les routes les plus praticables. Je pense qu'il y a tout de même un point qui me fait émettre des réserves. Les MSAP fonctionnent et fonctionnent de mieux en mieux parce qu'il y a effectivement une permanence de service sur place. Les gens prennent des habitudes et viennent rencontrer les animateurs et les animatrices qu'ils ont l'habitude de voir lorsqu'ils sont dans des difficultés quoi, et à qui une réponse personnalisée est apportée. Ce qui est intéressant dans les structures que nous mettons en place, c'est la proximité des animatrices et des animateurs qui connaissent les personnes qu'ils ont en face d'eux. Bien entendu, un outil nomade permettrait peut-être de contacter un peu plus de personnes. Sauf que les habitudes ne sont pas aussi facilement enracinables que ça. Je pense que la pertinence d'un site non nomade, autochtone, est quand même plus intéressant qu'un dispositif nomade. C'est une position très personnelle. Peut-être que les animatrices pourraient émettre aussi un avis à ce sujet-là, mais... il faut se rendre compte qu'une communauté de communes comme celle des Cévennes Montlozère est une communauté de communes qui embrasse un territoire de plus de 600 km². Lorsque nous avons des réunions de part et d'autre de ce territoire, on a entre 1h30 et 2h de route. Des dispositifs nomades pourraient être intéressants si la géographie de notre territoire était moins... trouble, moins accidenté. Voilà. Je pense que les sites installés sur place dans des locaux bien repérés et bien repérables est préférable.
Ok, merci pour ta réponse. On va passer au témoignage suivant, donc avec celui de Sophie Théris, qui va nous parler d'une initiative dans l'Aveyron, à Arvieux. Merci Sophie, je vais te mettre la diapositive.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Lozère d'avoir invité le voisin, la voisine aveyronnaise que je suis. Je vais vous parler donc d'un projet qu'on mène dans un petit village qui s'appelle Arvieux, sur le Lévézou, près des monts et lacs, à côté du lac de Parloux par exemple. Voilà. Donc on est en train de... Merci. D'y créer un tiers-lieu villageois où le numérique, où on essaye de marier le numérique et le participatif pour cultiver ensemble demain. Alors c'est tout un beau programme, mais on a déjà commencé depuis quelques années et ça commence à porter ses fruits. Voilà, donc je vais vous expliquer rapidement ça aux courageux qui sont restés. Voilà. Alors Arvieux, ben il y a beaucoup de points communs aussi avec, enfin avec la Lozère. Hein. Donc on est entre Rodez et Millau. C'est un village de 800 habitants à 800 mètres d'altitude, 30 minutes de Rodez, 45 minutes de Millau. On est à 1h30 de Mende, donc plus près que certains autres territoires de la Lozère. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu les mêmes problématiques par rapport aux routes, mais on est un peu loin de tout, mais on pense qu'on est un petit peu au milieu aussi, donc voilà. Alors les élus locaux étaient vraiment face à un problème, un cercle vicieux qui leur annonçait que si on faisait rien, ça allait être l'enclenchement de moins d'habitants, moins de services, moins d'actifs, moins de qualité de vie. Donc l'idée, c'était vraiment d'inverser cette tendance et de rentrer dans un cercle vertueux pour essayer de développer le village et le territoire. Les élus se sont dit comment attirer de nouvelles familles et également comment faire rester ceux qui sont là. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est que tout seuls, ils n'allaient pas y arriver et que le mieux, ce serait vraiment d'impliquer au maximum l'ensemble de la population locale. C'est pour ça qu'une démarche participative a été lancée. Donc cette démarche, elle a été lancée suite à un diagnostic que les élus ont fait faire à un cabinet local pour faire ressortir les atouts et les faiblesses de notre territoire. Et donc la particularité, c'est que ce diagnostic a été partagé à l'ensemble de la population lors d'une réunion publique, ce qui fait que la centaine d'habitants qui étaient présents étaient là pour partager vraiment ce qui faisait les caractéristiques de notre village et de notre territoire, ses forces et ses faiblesses. Et à l'issue de cette rencontre, il y a un conseil villageois qui a été créé avec une dizaine de groupes thématiques pour répondre à ces problématiques qui étaient rencontrées localement. Donc il y a un groupe qui s'est inscrit pour travailler sur les problèmes d'habitat, un autre sur les problèmes de santé, un autre sur les problèmes d'agriculture. Voilà, donc 10 groupes qui constituent un conseil villageois qui travaille en étroite collaboration avec le conseil municipal local. Donc ça, c'était en 2014. Voilà, et donc ça a donné naissance vraiment à un projet global l'idée de développer à Arvieux une cité digitale et conviviale, voilà, au cœur du village. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, il y a un peu plus de 20 ans, une entreprise qui s'appelle Lightis, qui crée des sites internet pour les territoires, les collectivités, notamment des sites touristiques pour des départements ou des régions un peu partout en Occitanie et également dans toute la France. On a des clients en Bretagne et même en Belgique. Voilà, donc cette entreprise est arrivée en 98, trois jeunes ingénieurs qui voulaient s'installer pour vivre et travailler en milieu rural se sont posés là, et depuis cette entreprise qui a un statut coopératif, c'est une SCOP, s'est développée. Aujourd'hui on est 17 dans l'entreprise. Donc ça, c'était en 98. En 2007, il y a également une médiathèque et une cyberbase qui ont été créées. Donc Donc voilà, l'aspect culturel et aussi service au public. Et puis du coup, en 2017, c'est la MSAP qu'on a créée avec la mairie pour continuer à faire un travail qu'on faisait déjà dans la cyberbase, puisque c'est un espace d'accès numérique pour la population et de formation numérique. Voilà, donc... l'idée, c'est que dans cet ensemble de lieux, il y ait des services au public, de l'animation culturelle avec une salle de spectacle, et puis également tout un aspect professionnel, service aux professionnels, avec l'accueil d'entreprise, l'accueil d'un espace de coworking pour des bureaux partagés. Donc, ce projet, c'est vraiment le fruit d'un travail partagé et un projet public-privé, puisque le public s'est investi, que ce soit la commune d'Arvieux par sa démarche participative, que ce soit la communauté de communes Les Vézoux, Parloux, qui s'est investi pour rénover tous ces bâtiments au titre de l'attractivité économique, donc en créant une zone d'activité numérique pour développer l'attractivité du territoire et l'économie locale. Et puis également le département avec lequel on travaille, notamment sur une plateforme d'attractivité qui s'appelle l'Aveyron Recrute. Un peu ce qui se fait aussi en Lozère pour essayer de trouver des gens qui viennent trouver du travail dans nos départements. Et puis par ailleurs, l'agence Laetis qui crée des sites internet. Voilà. Donc c'est vraiment... public, privé, et puis aussi l'ensemble des habitants qui sont mobilisés sur ce projet. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un petit lieu pour de grandes choses. C'est ambitieux, mais on espère y arriver.
Voilà, et on va s'arrêter là pour l'instant pour cette conférence sur le numérique et les territoires qui se poursuit un peu, car il est 16h30. On passe à notre plateau radio, on l'avait prévu, on vous l'avait annoncé ce matin, avec Pauline Morin, qui est chargée de mission attractivité au département de la Lozère. Bonjour Pauline.
Bonjour Ludo.
Alors nous avons également avec nous Augustin, qui vient de s'installer en Lozère, qui est un nouveau Lozérien. Bonjour Augustin.
Bonjour Ludo.
Et Franck, qui vient de Grenoble et qui va peut-être s'installer en Lozère, on va le voir au cours de cette émission, ou peut-être pas. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors Pauline, merci d'être là. En ce moment, donc, le Salon du Numérique, on est en direct de l'espace événement Georges Fraîche. Un job dating qui a eu lieu en même temps, qui s'est tenu en même temps. Peut-être pour commencer, comment ça s'est passé? C'est ce job dating qui s'est intégré au salon, c'est le salon qui s'est intégré au job dating, ça s'est fait ensemble, comment ça s'est passé?
Alors, ce sont deux projets qui se sont montés en parallèle. En fait, nous, dans le cadre de nos missions au département, sur la mission attractivité, on devait mettre en place un Lozère Dating, donc une session d'accueil de 2 jours sur le territoire pour faire découvrir le département à des futurs Lozériens. Et puis, en parallèle, Lozère Développement nous a dit qu'il mettait en place un salon du numérique. Donc, nous, notre job dating, on l'a orienté sur les métiers du numérique, puisqu'il y a beaucoup de besoins sur le territoire, notamment par rapport au métier de la fibre. Donc on s'est un petit peu arrangé avec eux et on s'intègre dans cet événement sur les 2 jours.
Alors Franck vient de Grenoble, il vient de nous le dire. Les candidats viennent à peu près d'où et ils sont combien ?
Actuellement, on accueille 8 candidats sur 2 jours. La moitié proviennent de Grenoble. On a 2 candidats qui viennent de Marseille, puisqu'on a fait une session d'information suite à Plus belle la vie en Lozère à Marseille. On a 1 candidat qui vient du Tarn et 1 du Vaucluse.
Augustin, tu viens d'où à la base ?
Donc moi, je viens de Toulouse.
D'accord. C'est aussi par la Lozère en lettres capitales que tu as connu le département ?
Exactement. L'événement Lozère en lettres capitales qui s'est déroulé l'an dernier, je ne sais plus à quelle date exactement, et qui a été une étape qui nous a permis au final d'atterrir en Lozère. C'était un souhait qu'on avait depuis quelques mois, même quelques années, de retourner au vert, de retourner à la campagne, de quitter Toulouse, qu'on adore, mais voilà, on avait envie de quitter Toulouse. Et donc j'avais fait cet événement, et suite à cela, et suite à de longues démarches, j'ai emménagé en Lozère, ici au mois de novembre, en 2018.
D'accord, tu travailles dans quel domaine ?
Et je suis développeur de logiciels.
On est dans le thème de la journée.
On est dans le thème.
Tu travailles seul en libéral, tu travailles pour une boîte, comment ça se passe ?
Alors, l'occasion de venir ici, ça a été l'occasion pour moi de créer mon entreprise, d'être freelance, développeur freelance. Et notamment pour pouvoir développer en télétravail, puisqu'ici, un des intérêts, c'est de pouvoir continuer à travailler avec des entreprises à l'extérieur de la Lozère aussi, et donc de travailler en télétravail. Donc comme ça, j'ai ma structure qui me permet de travailler depuis chez moi. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise. Et actuellement, j'ai un client qui est ici sur Mende.
Franck, tu cherches dans quel domaine précisément ?
Ben à la base, je suis informaticien. J'ai fait une formation de technicien de maintenance informatique sur Paris à Créteil, à GFI. Et ben là, quand je suis tombé sur donc l'annonce de Pôle emploi, qui nous invitait au niveau de Lozère, ben tout de suite, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, vu que c'est le numérique... Et quand je suis arrivé ici, et voilà, on m'a parlé de tout ce qui est technicien de fibre optique, qui a quand même une relation avec le domaine numérique et tout. Et puis voilà, j'essaie de voir maintenant sur les trois entreprises que j'ai, lequel peut-être pourra faire de moi le technicien dont j'attends.
Tu viens d'arriver, donc c'est un peu dur de te poser cette question, mais ouais. Quel ressenti tu as en arrivant en Lozère, ce milieu hyper rural, si tu viens de Créteil puis de Grenoble? On descend en termes de population, d'infrastructure, de tout ça. Quel est ton premier ressenti sur ce département?
Oui, c'est vrai que tout est léger, au fait, dans le sens où on respire. Quand on trace la route en voiture, ça circule, au fait. Or, dans d'autres villes, là où on est, voilà, c'est pas ça, quoi. À chaque fois, on s'arrête, des feux rouges, machin, et tout, des embouteillages. Je trouve que c'est... au niveau de la population, 76 000, bon, quand même, c'est... Franchement...
C'est le stade de France.
Voilà, il y a donc... il faut du monde, on se dit.
Et oui, il faudrait qu'on augmente, oui, c'est sûr. Pauline, pour faire aimer ce département, est-ce que vous avez prévu un programme sur ces deux jours?
Oui, un programme concocté aux petits soins pour nos candidats. Donc, ils sont arrivés, on les a accueillis autour d'un buffet avec des produits locaux. Déjà, la découverte d'un territoire, ça se fait aussi par l'aspect culinaire. Ils ont enchaîné toute l'après-midi avec donc le job dating, hein, avec les rendez-vous avec les recruteurs, avec le partenaire Pôle emploi, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec eux là-dessus. Ce soir, ils ont un temps convivial dans un restaurant de la ville. Profiter peut-être de la fête de la musique, si le temps le permet. Et puis demain matin, on les emmène découvrir le territoire à proprement parler, vraiment une activité ludique, activité de pleine nature, pour qu'ils voient un peu, vivre en Lozère, effectivement, il y a le travail, mais il y a aussi toutes les activités autour. Et on clôturera ce Lozère Dating avec un pique-nique sur le COS pour qu'ils profitent pleinement du soleil qui est annoncé demain.
Et je voulais juste ajouter que c'est un peu la première fois qu'en France que je vois qu'une ville invite les gens, d'autres citoyens, pour venir découvrir un peu ce qu'il y a comme métier. Hein. Mmh. Moi, je vois ça plus au niveau du Canada, qui fait des appels d'offres de ce genre-là, mais voilà, je ne savais pas que ça existait en France.
Mais effectivement, tu as raison, Franck. Moi, c'est une des choses qui m'avait plu, puisque moi, j'étais à Toulouse à l'époque et j'avais vu que Lozère Nouvelle Vie faisait un événement à Toulouse Capitole, sur la place du Capitole, au centre de Toulouse. Oui. Donc toute une ville, toute une région, tout un département précisément, qui venait et qui nous invitait. Et moi, j'avais trouvé ça très accueillant. Donc ça donne envie de venir. Oui, on voit que les gens ont envie que l'on vienne. Donc ils sont ouverts et ils le montrent. Et ça, c'est frappant, oui. On ne voit pas ça partout.
Franchement, c'est trop bien, trop bien.
Ouais.
Tu as raison, parlant de Canada, c'est vrai que c'est des choses qui se font en Amérique du Nord. On se renseigne sur ce qui se fait dans des pays voisins, justement, pour proposer des manifestations comme ça, ou comment ça se passe, Pauline?
Oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille au niveau de l'Europe, hein, du Massif central. On a des fonds européens pour mettre en place nos actions, nos stratégies. Hein. On répond à des appels à projets qui ont une durée de 3 ans. Et pour déposer ces plans d'action, on se nourrit un petit peu des expériences qui sont faites dans d'autres territoires de massifs, de moyenne montagne, et ce qu'on appelle les sessions d'accueil, hein, ce que l'on fait là, un Lozère Dating, c'est une session d'accueil, c'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais on essaye d'y mettre un petit peu notre marque de fabrique, qui est cette proximité, la taille humaine du département, du territoire. On accueille un petit groupe, on leur présente directement des recruteurs, on leur présente des acteurs locaux, des élus. On avait une élue départementale à midi avec nous. On avait un maire aussi qui a participé à l'accueil. Donc on s'inspire de ce qui est fait dans d'autres territoires et on l'adapte à notre territoire. Oui.
Voilà, sur divers métiers possibles. Aujourd'hui, enfin, ce week-end, c'est le thème du numérique. Augustin, on est un peu la preuve. C'est une chance pour un département comme le nôtre, le numérique, les offres liées à ce domaine d'activité, notamment le télétravail, des choses comme ça.
Oui, ça fait quelques années déjà que le département de la Lozère travaille sur cet axe développement du télétravail avec la mise en place de télécentres. Il y a plusieurs télécentres et tiers-lieux qui sont en place déjà sur le département. Ça continue à se développer. Et puis, en ce moment, on est en plein dans le déploiement de la fibre, qui est un atout essentiel pour notre territoire en termes d'attractivité. Donc le département qui est un petit territoire rural finalement met tous les atouts de son côté pour être très attractif et moderne.
Il n'y a pas de barrière finalement pour ton travail ?
Eh bien finalement il n'y a pas de barrière. Bien que au départ il y en a eu dans nos têtes, il y a eu des barrières. Voilà, y compris la connexion internet par exemple. Mais il s'avère que même dans mon petit village, la connexion Internet m'a permis de travailler, me permet de travailler en télétravail sans problème.
En attendant l'arrivée de la fibre.
Voilà.
Oui, Pauline.
Non, on parlait de barrières. Il y a des freins psychologiques et puis il y a des freins. Oui. Voilà, franchir le cap, quitter une ville, une agglomération, surtout quand on est en couple, quand on a des enfants en bas âge, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Et c'est aussi l'avantage qu'on a nous en Lozère, c'est le réseau Lozère Nouvelle Vie, puisque on a eu cet après-midi les rendez-vous avec les recruteurs, mais il y avait aussi les territoires et la DIL, nos partenaires qui étaient là pour présenter du concret, des offres de logement, les activités, les modes de garde pour les enfants. Il y a aussi il y a l'emploi, mais il y a aussi le cadre de vie qui est important, et accompagner les gens dans ce changement de vie, c'est essentiel pour arriver à concrétiser ce changement-là.
Comment se sont passés les rendez-vous avec les recruteurs, Franck ?
Ça s'est bien passé. Le dernier, surtout, j'ai beaucoup aimé, le Scopelec.
Oui, c'est ça.
Et les deux premiers, ça va aussi, ils parlent bien du fibre optique. C'est le deuxième où c'est plus du BTP, au fait.
D'accord.
Par lui, quand même, il a retenu mon CV. Et par ses partenaires, il pourra effectivement leur faire passer le message. Et puis, je serai plus intéressé sur le dernier, le Scopelec.
Demain, une offre d'emploi te parvient, Scopelec est prêt à t'embaucher. Toi, tu es prêt à passer le cap et à venir ici de suite ?
C'est vrai que c'est pas facile, parce que quand même, on est installé l'autre côté depuis très, très longtemps avec la famille. Vu que je suis là pour découvrir, et qu'on ferait le nécessaire, oui.
On y réfléchit.
On va
engager un accompagnement avec les candidats qui ont des pistes sérieuses sur l'emploi. On va leur mettre en place l'accompagnement Lozère Nouvelle Vie pour leur faciliter le processus d'installation s'ils en ont envie.
Ou de découverte un peu plus en profondeur du territoire. C'est quoi ce processus finalement,
Le processus, c'est tout simplement déjà un référent au niveau du réseau Lozère Nouvelle Vie. Qui va répondre à leurs questions diverses et vraiment des questions très pratiques. Hein. On en parlait tout à l'heure. Où est-ce que je peux trouver un logement ? Quel type de logement ? J'ai des enfants qui ont tel âge ? Où est-ce que je peux les scolariser ? Est-ce qu'il y a des activités, des gardes ? Donc on rentre vraiment dans du concret et du personnel. Il y a un vrai lien qui se fait avec le référent qui accompagne les personnes.
Ça s'est passé comme ça pour toi, Augustin ?
Oui. Ça s'est passé comme ça. J'ai eu plusieurs interlocuteurs, Lozère Nouvelle Vie, Lozère Développement aussi, par mail, par téléphone. Mais oui, c'est un processus que eux accompagnent si on a envie. La partie si on a envie, elle est essentielle. Tout est là. Hein. Donc l'envie, elle va, elle vient. Il y a des barrières qui se lèvent et puis. Voilà, petit à petit, un jour, ça se fait, mais il faut vraiment en avoir envie. Mais voilà, c'est un choix. C'est un choix que l'on fait. Voilà. Nous, on est très contents d'avoir fait ce choix. On a réussi à sortir de Toulouse, mais c'était très dur. C'est très dur de quitter une ville et de tout le confort qu'elle nous apporte. Voilà, on se met un petit peu hors confort, on se met un petit peu en zone de... Voilà. Et donc, mais faire ce premier pas, on sait que finalement, c'est toujours bénéfique, en fait. Peu importe où ce premier pas... Voilà, c'est un premier pas en Lozère. On verra bien où il nous mène. Pour l'instant, on est là, on est très contents. Et ce pas, est, dans tous les cas, est un très bon pas de vie, quoi.
C'est beaucoup d'énergie, Pauline, pour 8 candidats.
Si peu.
C'est compliqué de faire venir des gens. On sait que c'est vraiment le cheval de bataille de la Lozère. C'est vraiment beaucoup de travail que vous faites. Et on se demande... je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça en vaut la chandelle, toute cette énergie?
Bien sûr, parce que finalement, sur toutes les personnes qu'on a rencontrées, il n'y a que 8 candidats. On pourrait nous dire qu'il n'y a que 8 candidats aujourd'hui. Pour nous, c'est un succès d'avoir 8 personnes qui sont intéressées par un changement de vie. Donc déjà, ça, c'est positif pour nous. Et puis toutes les personnes qu'on a rencontrées qui ne sont pas venues, ça ne veut pas dire que la Lozère ne leur parle pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à venir passer un entretien de recrutement. Néanmoins, on leur a parlé de la Lozère, puisque certains d'entre eux ne la connaissaient pas déjà. On a certainement suscité des envies de vacances et de venir découvrir d'abord ce territoire. Et peut-être que dans les mois qui viendront, ces gens-là s'inscriveront sur le site lozerenouvellevie.com pour avoir plus d'informations et enclencher un processus de suivi. Donc effectivement, les résultats sont difficiles à percevoir, puisque quantifier une installation, c'est compliqué.
De toute façon, tous les chiffres en Lozère sont forcément compliqués.
C'est pas simple à quantifier, mais n'empêche, quand on discute avec les gens, même s'il y en a qui ne se sont pas inscrits, on échange quand même avec eux, ils nous disent la présentation que vous avez pu nous faire sur la Lozère nous a touchés et peut nous donner envie de venir déjà nous-mêmes voir qu'est-ce que ce territoire a à nous proposer.
Mais c'est important de le dire, voilà, c'est un travail de fond qu'on fait, des premières approches qui peuvent donner d'autres. J'ai cru comprendre, Augustin, que tu étais toi aussi venu à la start-up et dans le pré après Toulouse en lettres capitales. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, une première approche, une deuxième approche pour te faire prendre conscience que oui, tu pouvais passer le cap. C'est ça ?
Effectivement, de toute façon, notre parcours, il a été fait de signes, d'événements qui ont été là, voilà, donc Lozère en lettres capitales, ça en était un. Et il y avait la start-up et dans le pré qui s'est passée ici près de Florac, donc au cœur des Cévennes.
À la ferme des Cévennes.
À la ferme des Cévennes, un très bel endroit, en pleine nature, au calme, parfait pour réfléchir à des entreprises, etc., créer un petit peu, un parfait endroit pour ça. Et donc, on m'a contacté, on m'a proposé de venir là, j'ai tout de suite dit oui. Parce que ça aussi, de l'extérieur, j'ai trouvé ça très innovant. Moi, je suis très attaché à l'innovation en termes informatiques. Et je pense que dans des territoires comme celui-ci, on peut développer de manière sereine, avec beaucoup de recul, avec d'innover, de créer des structures, des start-up, voilà, des initiatives. Et donc ça en était la preuve que c'est possible et que voilà qu'un événement comme ça puisse arriver. Donc ça, c'était une très bonne publicité pour moi de l'extérieur. Dans tous les cas, c'était vraiment une très belle image de la Lozère. Donc c'est sûr que ça a contribué à ce que l'on vienne.
Ce qui se passera peut-être pour Franck, il faudra plusieurs venues, arriver à s'habituer à ce territoire, à le connaître.
Tout à fait. C'est ce que j'attends même. Je reviendrai, c'est sûr.
Et justement, Pauline, il y a d'autres manifestations qui sont prévues pour Lozère Nouvelle Vie.
Alors, Lozère Nouvelle Vie, des manifestations, il y en a tout le temps. Et là, le Lozère Dating, c'est la deuxième édition. On en avait fait une précédente en décembre sur les métiers de la santé. On va en faire une au mois de novembre sur la reprise d'activité, donc avec nos partenaires
consulaires notamment. Voilà, donc sur le même format, hein, toujours faire découvrir le territoire, les opportunités professionnelles. Donc chaque semestre, je pense, on aura des événements de ce type-là. Et puis l'an prochain, on aura certainement à nouveau une opération de promotion de la Lozère hors du département, puisque pour le département, c'est important de faire connaître à la fois les activités touristiques, à la fois les producteurs et à la fois Lozère Nouvelle Vie.
Après Toulouse, Marseille, Lyon, c'est quand ça va être compliqué. Que reste-t-il ?
On verra.
On verra. Ok, merci, merci Pauline. Merci aussi à Franck, donc on espère que ça va matcher, comme on dit.
Oui, je l'espère aussi. J'attends des nouvelles de Scopelec. Mmh. Et puis, je tiendrai au courant après Pauline.
Eh oui.
Par mail ou par téléphone, on garde le contact en tout cas.
Bon, super.
Pour la suite.
Super, et Augustin, merci d'être là, d'être ici sur ce plateau et d'être en Lozère.
Merci à vous.
On rappelle ce salon du digital, du numérique en Lozère qui se poursuit, hein, bien sûr, pendant 2 jours. Avec demain, ça va être surtout l'espace jeu 1 qui sera en bas. Ici, ça ferme en haut. Tout le monde se retrouve en bas. C'est très bien organisé. C'est très beau ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous êtes allés faire un tour tous les trois.
C'est sympa et c'est ouvert au public, effectivement, demain. Venez voir le 48 points digital.
Voilà, et moi je vais laisser l'antenne et je vous retrouve dès lundi pour les informations locales et vos émissions habituelles. Merci, à bientôt.
Merci.